qui font ce jugement en faisant manquer à la justice. Si vous êtes au niveau passionnel devant un sentiment de pitié, vous voyez, alors c'est toute la question. Est-ce que la pitié, c'est la miséricorde? Oui, constamment, on parle de la pitié. Avoir pitié, vous savez ce que faisait Hitler, hein? Hitler habituait les gens, les jeunes, à ne plus avoir aucun sentiment de pitié. Et commencer par les animaux. Commencer par les spectacles des animaux. On faisait en face des jeunes souffrir des chiens, des chats, pour supprimer le sentiment de pitié. Normalement, quand vous voyez qu'on blesse inutilement un animal, vous êtes furieux, ce qui est normal. On a un sentiment de pitié. Alors on commençait par supprimer la pitié à l'égard des animaux. Puis après, c'était à l'égard des hommes. Il y avait cette chose très très curieuse dans l'hitlérisme, c'est qu'on voulait supprimer le sentiment de miséricorde. Parce que je crois, alors là ce serait une chose très importante à souligner, je crois que ce qu'il y a de plus profondément inscrit dans le cœur de l'homme, c'est la pitié à l'égard de celui qui souffre. Et donc supprimer ce sentiment de pitié, c'est supprimer dans le cœur de l'homme l'image de Dieu. Et si nous disons, et ça saint Thomas le dit à la suite des pères de l'Église, et je crois que c'est très très juste, si nous disons que la miséricorde, c'est la vertu par excellence de Dieu, Dieu seul est toujours miséricordieux. C'est dit dans une oraison, ça. Dieu seul est toujours miséricordieux. La vertu par excellence de Dieu, l'attribut par excellence de Dieu, c'est la miséricorde. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, nécessairement, ce qu'il y a de plus profond en nous, dans notre âme, c'est ce sentiment de pitié qui est le premier élément de la miséricorde. Et supprimer dans le cœur de l'homme ce sentiment de pitié à l'égard de la misère de l'autre, c'est briser l'image de Dieu en nous. Ça, je crois que c'est très important. Oui, forcément, dans le sens où je vous disais tout à l'heure qu'elle implique de pâtir à l'égard de l'autre et de le sauver, oui, de le réhabiliter. C'est pas la miséricorde, c'est la différence entre la miséricorde et la pitié. La pitié consiste simplement à souffrir avec l'autre. Je pleure avec l'autre. J'ai pitié de lui. Ah, oh, c'est effrayant, j'ai pitié de lui. La miséricorde, c'est plus. C'est avoir pitié, compatir et relever. Oui, moi, je vois toujours le geste de la miséricorde, c'est la mère. Le gosse pleure, il vient pleurer auprès de sa mère, et au bout de 3 minutes, il est consolé. Et il s'en va en riant de nouveau. Ça, c'est tout à fait le geste de la miséricorde de la mère. Elle compatit. L'enfant sait que la mère compatira. Si la mère ne recevait pas ses pleurs, elle ne serait pas mère. La mère reçoit les pleurs de l'enfant parce qu'elle l'aime. Alors elle reçoit les pleurs de l'enfant. Et l'enfant sait que ses pleurs sont reçus. Et du fait même que ses pleurs sont reçus, à partir de là, il y a un soulagement. Et là, il repart avec un nouvel élan. Et je crois que c'est les 3 moments... absolu de toute miséricorde. C'est connaître la misère de l'autre, faire que cette misère devienne notre misère et faire qu'à partir de là, il soit libéré.
Le troisième point,
il n'est pas toujours facile, mais il est essentiel à la miséricorde. Vous ne le voyez pas, il y a 1000 façons de le faire, hein, par la prière. Nous ne pouvons pas tout. Oui, je vois un pauvre type qui n'arrive pas à s'en tirer, je n'ai pas un sou à lui donner. Alors j'ai une pitié énorme devant tout ce qu'il a, je ne peux rien lui donner. Je peux quand même essayer de lui permettre de retravailler. Vous voyez, on lui rend courage. Redonner courage, c'est l'effet de la miséricorde. Redonner courage à quelqu'un. Lui permettre de repartir. Voilà. C'est purement intérieur. Mais je crois que c'est essentiel à la miséricorde, ça. À la différence de la pitié. C'est pour ça qu'il faut mettre une différence entre la pitié. La pitié est un élément de la miséricorde, mais ce n'est pas la miséricorde. Vous voyez ? Alors, deuxième objection. Si elle est une vertu, Aristote ne dirait pas que l'indignation qui lui est opposée est digne d'éloge. Ça, il faut bien comprendre, hein. Aristote n'est pas le philosophe qui a parlé le mieux de la miséricorde. Il faut le reconnaître. Hein. Il n'a pas compris. Il est grec. Et c'est pas de fait le point de vue. La miséricorde, si vous voulez regarder la miséricorde, vous regardez l'écriture. Hein. La miséricorde, elle est divine. Elle est très profondément inscrite dans le cœur de l'homme, mais elle dépasse le cœur de l'homme. C'est pas une vertu de la morale laïque. Allez. C'est pas une vertu de la morale laïque. C'est pas une vertu de la morale humaine. La miséricorde n'apparaît qu'avec la charité. Et elle n'est vertu que par la charité. Elle n'est pas vertu autrement. Notre cœur humain est trop petit pour être miséricordieux. Pour être vraiment miséricordieux. Parce que quand vous souffrez, vous en avez toujours assez. Alors vous n'avez pas envie de recevoir la souffrance d'un autre. J'en ai assez, moi, j'ai souffert suffisamment dans ma vie. Maintenant, hein, laissez-moi un peu me reposer. Hein. Alors, donc, humainement parlant, on a tous souffert assez. On n'a pas du tout envie de prendre la misère d'un autre dans son cœur. Ça ne peut être que parce que notre cœur se dilate aux dimensions du cœur de Jésus qu'on peut porter toute la misère du monde. C'est impossible autrement. Aristote parle de la miséricorde et de l'indignation considérées comme passion. Vous voyez, saint Thomas blanchit Aristote de façon admirable. Hein, parce qu'il l'aime, alors il est miséricordieux pour lui. Elles s'opposent l'une à l'autre par le jugement qu'elles portent sur le mal d'autrui. La première fait qu'on s'afflige devant les malheureux qui n'ont pas mérité leur sort. La seconde, qu'on se réjouit d'une souffrance méritée, comme aussi que l'on se fâche à la vue de gens qui réussissent sans en être dignes. Tous deux sont louables et ont une racine commune. Mais à proprement parler, le sentiment opposé à la miséricorde, c'est l'envie. Qu'est-ce qui vient lutter contre la miséricorde ? C'est l'envie. Troisième objection. La joie et la paix qui viennent de la charité ne sont pas des vertus. Mais la miséricorde en vient aussi. Pleurer avec ceux qui pleurent correspond à se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. Elles n'ont pas une vertu. C'est évident que la joie et la paix ne sont pas des vertus. La joie et la paix, répond saint Thomas, n'ajoutent rien à la raison de bien, qui est l'objet de la charité. C'est ce que on voyait hier. Et ça, c'est très important. La joie et la paix n'ajoutent rien à la raison de bien. Godium et pax, nihil adiciunt super rationem boni, quod est objectum caritatis. Donc, ça n'a rien d'objectif, c'est purement subjectif. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'ajoute rien à l'amour, au point de vue objet. C'est purement subjectif, la joie et la paix. Donc, n'ajoute rien à la raison de bien qui est l'objet de la charité, et qui ne requiert donc pas une autre vertu. La miséricorde introduit une considération toute nouvelle, à savoir la misère de celui dont on a compassion. C'est pour ça que je ne peux pas avoir un sentiment de miséricorde à l'égard de Dieu. C'est impossible. Tandis que j'ai un sentiment de joie et de paix à l'égard de Dieu. Parce que la joie et la paix accompagnent entièrement le motif de la charité. Tandis que la miséricorde ajoute quelque chose de particulier, c'est la misère de l'autre.
Est-ce que c'est de la miséricorde de la passion de Jésus? Parce que
la compassion de Marie, c'est parce que Jésus souffre en tant qu'homme. Alors là, c'est possible. Mais pas vis-à-vis de Dieu. Ah, c'est une compassion, on ne dit pas une miséricorde, voyez, hein? Parce qu'il est Dieu.
Quand le péché touche Dieu et le blesse,
oui.
Est-ce qu'on ne peut pas avoir une sensibilité
de miséricorde pour Dieu? Compassion. La compassion, tristesse des pécheurs, compassion de Marie. On ne dit pas miséricorde de Marie. Alors, est-ce que Marie a eu de la miséricorde quand l'enfant Jésus se faisait mal? Vous voyez, quand l'enfant Jésus prenait le marteau et qu'il pouvait, à la place du clou, se frapper sur son doigt. Il était d'une. Il n'avait aucune espèce de possibilité de maladresse. Oui, vous pourriez demander ça. Il y avait sûrement une compassion. Parce que la miséricorde regarde quand même la personne. Et Jésus est Dieu. Dans sa personne humaine. Là, je crois qu'on peut dire mystère de compassion, pas mystère de miséricorde, au sens propre. Parce que c'est une personne divine qui... Le mal est porté dans l'amour d'une façon telle que le mal ne touche pas. Vous voyez, il est dépassé, il est absorbé par l'amour. Mais il y a une compassion. Alors, dernière objection, elle n'est pas une vertu intellectuelle. Puisqu'elle n'est pas dans l'intellect, ni une vertu théologale, n'ayant pas Dieu pour objet, ni une vertu morale. Elle ne règle pas les relations comme la justice. Et quant aux passions, elle ne se ramène à aucune des 12 milieux énumérés par Aristote. Alors ça, c'est intéressant. La miséricorde, répond saint Thomas, quand elle est vertu, est une vertu morale ayant pour objet les passions et se ramenant au même milieu que l'indignation, puisqu'elles viennent toutes deux d'un même sentiment. Ces milieux, ces métaxus, c'est les intermédiaires, puisque la vertu regarde toujours un intermédiaire. Aristote n'en fait pas des vertus, mais des passions. Et même à ce point de vue, ils sont louables. Cependant, rien n'empêche qu'ils aient pour principe un choix volontaire et méritent ainsi le nom de vertu. Autrement dit, la miséricorde n'est pas une vertu théologale, c'est bien évident. Elle est une vertu morale, mais une vertu morale liée à la charité. Et c'est ça qu'il faut saisir. Saint Thomas ne le souligne pas ici, il aurait pu le souligner. Parce que c'est quand même ça qui caractérise la miséricorde. Je crois qu'on ne peut pas parler de miséricorde sans la charité. Parce qu'il faut que notre cœur s'agrandisse à la dimension du cœur de Jésus. C'est pour ça que c'est une vertu typiquement chrétienne. Vous ne pouvez pas exiger la même miséricorde vis-à-vis de ceux qui ne sont pas chrétiens que vous-même. Et ça, je crois que c'est très très important. Vis-à-vis des non-chrétiens, vous exigez la justice. Et vis-à-vis des chrétiens, vous exigez la miséricorde. Que elle est en vue de l'amour. Qu'elle soit conforme à la raison droite de la prudence, vertu morale. Qu'elle soit conforme, c'est toujours la raison que prend saint Thomas. Hein. Il prend qu'une vertu, c'est de fait, quand il s'agit des vertus morales, que ce soit conforme à la raison droite. Et quand il s'agit des vertus morales, des vertus théologales, qu'elles soient conformes à la raison divine. C'est toujours une question de conformité ou à la prudence humaine ou à la sagesse divine. Une vertu implique cette conformité à la loi. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, non, pas du tout. Vous avez la joie, pas du tout. La joie, ça, c'est une propriété de l'amour. Vous êtes joyeux, c'est tout. Vous allez dire, vous êtes trop joyeux. Est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un, vous êtes trop joyeux? Hein? Non. Vous pouvez dire, vos manifestations de joie sont un peu trop intempestives. Vous pouvez dire ça. Vos manifestations de joie sont un peu trop intempestives. Faites attention parce que vous irritez votre voisin. Vous alors faites attention. Pour ça, mais au fond, la joie, non. Ce n'est pas un milieu, c'est l'épanouissement de l'amour. Il n'y a pas de limite dans la joie. Il n'y a pas de limite dans la paix. Parce que c'est l'amour. C'est rattaché directement à l'amour. C'est quelque chose de plus fondamental, la joie et la paix, que la miséricorde. C'est pour ça qu'elle est le caractère propre de la vie contemplative. Une vie contemplative est joyeuse et paisible. Vous n'allez pas dire que le caractère propre de la vie contemplative, c'est la miséricorde. Non. Le caractère propre de la vie commune des contemplatifs, c'est d'être la miséricorde. De la vie commune des contemplatifs, de la vie commune des religieux, de la vie commune des chrétiens, c'est la miséricorde. Tandis que le caractère propre de la vie commune des hommes, c'est la justice. Alors là, vous voyez tout de suite la différence. Vous voyez, c'était un petit peu l'erreur de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre disait, il faudrait que les lois soient en vue du plus misérable de la communauté. Vous voyez les lois qu'on pourrait faire à ce moment-là. Les lois regardent le bien commun et pas le bien du plus misérable. Le plus misérable, on lui fait miséricorde, mais c'est pas la miséricorde n'est pas la loi normale d'une communauté humaine. Mais la miséricorde devient la loi normale d'une communauté de contemplatifs. À des contemplatifs, on doit toujours faire miséricorde. Et c'est non seulement pour des contemplatifs, mais c'est vrai pour la vie religieuse et c'est vrai pour la vie chrétienne. L'Église doit être avant tout miséricordieuse. Je me souviens de la remarque de Marc à l'égard de quelqu'un qu'on lui parlait et qui avait reçu des corrections de Rome. Marthe disait avec sa franchise, « Ah, avec tout le respect que je leur dois !» N'est-ce pas, elle parlait de Rome. « Avec tout le respect que je leur dois !» Mais c'est terrible, je ne vois aucune trace. Ça m'a beaucoup frappé, ça. C'est tout de suite ce qu'elle cherchait. Parce qu'on n'a pas le droit, entre chrétiens, de ne pas de mettre uniquement la justice. Non. C'est la miséricorde qui commande tout. Alors la miséricorde doit assumer la justice, elle ne doit pas s'opposer à la justice, mais elle doit assumer la justice. C'est ça qui sont les liens propres de l'Église. L'Église est une communauté de miséricorde. Parce qu'elle vient de la croix. Et que Jésus est mort dans la miséricorde. Et donc, c'est le propre de l'Église. Si on veut comprendre ce que c'est que la communauté de l'Église comparativement aux autres communautés, les autres communautés humaines sont commandées par la justice et l'Église est commandée par la miséricorde. Il faut peut-être s'arrêter. Hein ? On laissera l'article 4 une autre fois, comme ça vous aurez le temps de réfléchir sur la miséricorde.